France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Maroc médiéval, des dynasties et des sultans. Il y a plusieurs manières d'approcher l'histoire du Maroc médiéval et pourquoi pas par les dynasties idrissides, almoravides, almohades ou encore mérinides. Voilà qui paraît lointain et pourtant ces dynasties sont le passage indispensable pour comprendre comment le Maroc a écrit son histoire. Alors idrisside, almoravide, almohade, mérinide, dans une heure, je vous le promets, vous, nous, moi, tout sera plus clair.
À Fès et alentour, Taza, Meknès, Azrou, El Arba, nous entrons au cœur du pays musulman marocain.
Oui, c'est ici Marrakech. L'immense palmeraie s'étend dans la plaine et les sommets de l'Atlas au rouge soleil couchant sont encore immaculés de neige.
Le berbère sait qu'il n'a pas eu seulement la gloire des sultans.
Le cours de l'histoire.
Il a eu aussi la grandeur du peuple, son courage, son abnégation.
Et maintenant, voici tout un troupeau de petites chèvres qui guident plus qu'il ne les guide un enfant. Tout cela, c'est la paix. Notre paix. La paix almoravide.
Jocelyne Daclia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et avec vous aujourd'hui, Mehdi Gouiriad, bonjour.
Bonjour.
Professeur du monde musulman à l'université Bordeaux-Montaigne, professeur associé à l'université Mohamed VI de Rabat et Yassir Benima, bonjour.
Bonjour.
Professeur d'histoire du monde arabe et d'islamologie à l'université Lumière Lyon 2. Merci beaucoup à tous les trois d'être là pour nous faire comprendre ce Maroc médiéval. Je l'évoquais, ces dynasties, les unes après les autres, structurent l'histoire du Maroc, du moins telle qu'elle a longtemps été racontée. On peut le dire comme ça, Yassir Benima.
Tout à fait. L'histoire dynastique a été longtemps considérée comme le critère qui permet de retracer l'évolution politique du Maroc médiéval et moderne également. Cette manière de voir l'histoire, on la retrouve dès l'époque médiévale, dès l'historiographie mérinide au début du XIVe siècle. On a commencé à présenter la dynamique politique du Maroc sous forme de succession de dynasties et en particulier en considérant que les Idrissides constituent le premier pouvoir, le premier État dans l'histoire du Maroc. Et les autres dynasties suivent les unes après les autres.
Mehdi Gouiriad, on peut quand même dire dans cette histoire-là, j'utilise une expression qui est désormais un peu rincée, mais celle de roman national, que ces dynasties, c'est le passage obligé dans l'écriture d'un roman national marocain.
Absolument, parce que le propos était de... À l'époque moderne et puis à l'époque coloniale et au moment des indépendances et somme toute jusqu'à aujourd'hui, de soutenir la comparaison avec d'une part l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire principalement la France et dans une moindre mesure l'Espagne, et d'autre part avec le monde arabe, avec l'objectif clair d'affirmer que le Maroc a une histoire au moins aussi longue et aussi glorieuse que ses différentes entités.
Jocelyne Daclia, malgré tout, historien, historienne que vous êtes, peuvent lire l'histoire du Maroc d'une autre manière. Il faut le dire, il y a cette histoire par les dynasties, et puis il y a le travail réalisé aujourd'hui, qui est un travail transversal. On ne sait bien qu'au moment où une nouvelle dynastie apparaît, tout n'est pas effacé par le passé, tout n'est pas créé.
Tout à fait. Par-delà l'histoire dynastique, il y a des structures anthropologiques du pouvoir, et il y a une forme de modèle politique qu'on pourrait dire assez... particulier au Maroc ou peut-être même à l'ensemble du Maghreb, et un modèle politique dans lequel tout n'est pas du fait de la dynastie, tout n'est pas du fait d'un pouvoir central, étatique. Il y a une interaction constante avec les populations sujettes ou à assujettir ou visées par l'État central. Et donc c'est cette structure transversale qui nous intéresse de plus en plus.
Mehdi Gouiriad.
Cela repose sur un malentendu fondamental qui est principalement celui du problème de l'État. Parce que l'État, au sens où on l'entend nous, on va dire entre Machiavel jusqu'au XVIIIe siècle et l'apparition, l'émergence de l'État panoptique avec ses institutions de discipline de l'État, à savoir pêle-mêle le lycée, la caserne, l'hôpital, la prison, etc., ont eu pour objectif et pour résultat bien de contrôler la totalité du corps social, ce qui n'était jamais arrivé somme toute dans l'histoire de l'humanité, qui plus est en imposant ce que Max Weber, peut-être le terme est un peu éculé, un peu dépassé, celui de légitime de la violence, donc avec l'État. Et en ce sens, on ne retrouve pas l'appareil dans les sociétés du sud de la Méditerranée, à commencer naturellement par le Maroc, qui ont été dans la longue durée des sociétés. Alors le terme lui aussi demanderait éclaircissement, demanderait approfondissement, celui de tribus avec une conception du pouvoir plutôt collégiale, en effet, et avec dans la très longue durée des problèmes pour l'État, entre guillemets, plutôt pour les dynasties, à imposer un pouvoir qui se marquait principalement par le fait de, eh bien, de faire payer, de faire acquitter l'impôt, taxe, etc. Ce qui était obtenu qu'à très, qu'à grande peine, en fait.
Ah bah, j'imagine bien. C'est vrai qu'il y a toujours de la fiscalité dans ces histoires d'État, Yassir Benhimma. Donc, on parle ici du Maroc médiéval, mais il y a des défis, c'est ne pas appliquer notre notion de l'État, du pouvoir, du sultan sur ce Maroc médiéval, et puis même notre notion même de ce qu'est le médiéval, qui ne veut pas dire grand-chose en réalité. Le Moyen-Âge, on le sait bien, c'est une période pratique pour essayer de mettre les choses dans des cases. Mais tout ça est extrêmement flou. Donc beaucoup de défis pour comprendre ce Maroc médiéval.
Tout à fait. Pour essayer de nuancer justement cette histoire dynastique, cette succession, on va dire, interminable d'une dynastie à l'autre, il est nécessaire peut-être de distinguer des périodes à l'intérieur de cette ère, en tout cas qu'on désigne par convention d'époque médiévale, en tout cas pour le Maroc et pour l'espace islamique en général. On peut dire que l'apparition d'un pouvoir central et centralisé au Maroc commence uniquement avec les Almoravides, donc au milieu du XIe siècle. Avant cette période et pendant tous les siècles qui séparent ce moment de la conquête arabo-islamique et donc de l'insertion du Maroc dans l'espace islamique, on a toute une phase où finalement la restitution de l'histoire politique pose de nombreux problèmes historiographique. Nous sommes devant une période qui est assez mal connue, qui était généralement écrite, ou dont l'histoire a été écrite tardivement, donc à partir soit de sources orientales, soit à partir de sources maghrébines, mais donc composées au 12e, 13e, 14e siècle. Et justement, pour essayer donc de comprendre cette première phase, il est nécessaire aussi d'évoquer toute la complexité du processus d'islamisation qu'a connu le Maroc pendant cette période. Le Maroc a été un espace très hétérogène du point de vue religieux pendant ces premiers siècles, avec l'apparition de pouvoirs locaux ou régionaux qui se revendiquaient de doctrines religieuses différentes, parmi lesquelles on va retrouver une doctrine chiite, le zaïdisme, et cela nous amène justement à parler du cas des Idrissides, cette dynastie qui a été longtemps présentée comme le premier État marocain, mais qui était en réalité un pouvoir né de la fuite ou de l'exil de membres de la famille Alid qui s'installe donc au Maroc.
Voilà, parce que moi je me suis fait un petit mémo, hein. Les Idrissides, 789-974. Je l'ai noté. Mais alors, moi c'est bon, j'ai ma première dynastie avec Idriss Ier, les Idrissides, sauf que là vous me dites, Yassir Benhimma, que non, c'est un peu plus tard. Donc va falloir creuser tout ça. Cette première dynastie là qui arrive, 789, je me dis, ça c'est à la suite de l'arrivée de l'islam. Juste une question de Candide, mais qui était là avant? Nous sommes dans un monde hérité de l'Empire romain déjà, et puis après, de tous ceux qui se sont déplacés là, les Vandales notamment, Mehdi Gouriat.
Alors il faut d'abord remarquer, et c'est là un point essentiel et fondamental au sens premier du terme, que le Maroc avait déjà regagné son indépendance vis-à-vis de Rome. Ça, c'est en ce sens, on peut considérer que c'est un substrat différent à la fois du Maghreb dans sa partie orientale, qu'on appelait Ifriqiya, c'est-à-dire l'Afrique, hein, le sens est clair de cette continuité jusqu'à un certain point avec Rome et le passé antique, et d'autre part avec la péninsule ibérique. C'est pour ça que dans la longue durée, le Maroc est un pays de haut niveau de violence. Vous avez des cavaliers qui font la guerre. C'est ainsi qu'ils ont été représentés, notamment sur la colonne Trajane à Rome. Et évidemment, on peut dire que de la colonne Trajane à Rome, et avec un nom sans exagération, jusqu'à Delacroix et sa représentation de cavalier, le Maroc, c'est en substance cela. Et on peut en trouver la trace dans le fait que dans le processus de conquête de l'Orient vers l'Ouest, vers l'Occident, des conquérants arabo-musulmans, la règle à retenir, c'est plus vous allez vers l'Ouest, moins il y a de cavaliers arabes disponibles, entendu que les Arabes n'étaient pas si nombreux que ça, moins d'un million. Et donc, ils ont été obligés d'associer les combattants des différentes tribus berbères, hein, parce qu'il faut prononcer quand même le mot, pour procéder à la conquête d'Al-Andalus et même mener des raids dans ce qui est aujourd'hui la France. Donc évidemment, l'autre date à retenir, c'est 740, puisque là, après quelques décennies de pouvoir installé à l'extrême nord du Maroc, principalement dans la région du détroit de Gibraltar, eh bien, les Marocains regagnent leur indépendance et en ce sens, c'est un tournant parce que, contrairement à l'Égypte, à la Syrie, l'Irak et au proche Moyen-Orient et à l'Andalous voisin, c'est-à-dire la péninsule ibérique sous domination musulmane, vous ne trouverez pas une aristocratie arabe qui sert de modèle religieux, linguistique, au reste de la population.
Avec Idriss Ier qui arrive et qui fonde cette dynastie, les Idrissides. Donc nous sommes à la fin du 8e siècle, hein, pour le dire simplement. Yassir Benima, cette histoire-là, c'est bien de la plonger dans le temps, hein, avec Rome, avec une première indépendance, une forme d'indépendance, l'arrivée de ces guerriers arabes, musulmans, très bien, mais ces populations berbères et ces associations.
Alors, l'arrivée d'Idriss Ier constitue un moment fondateur, justement, dans l'histoire politique du Maroc, même s'il ne s'agit pas réellement, on va dire, d'un premier État. Alors, Idriss Ier est un membre de la lignée de Ali, donc cousin et gendre du prophète. Il fait partie de cet ensemble de, on va dire, de proto-chiites, c'est-à-dire de membres d'une doctrine qui donnait la priorité dans l'espace islamique donc aux descendants de Ali pour devenir les commandants des croyants, pour prendre la direction spirituelle et politique des musulmans. Et donc Idriss Ier fuit l'Orient, fuit l'Arabie, suite à une série d'échecs de révoltes chiites, zaïdites, notamment la révolte de son propre frère, Mohammed Nafs Zakiya, en 762, et puis suite à une deuxième révolte, en 786, qui se termine par un massacre à Fakhr, donc dans les environs de Médine. Donc après cette débâcle, Idriss, comme d'autres de ses frères, donc décide de partir. Et ce départ, cet exil a été préparé par l'envoi de missionnaires dans plusieurs régions périphériques du monde musulman pour être loin de la répression abbasside. Donc il y a des missionnaires qui sont allés en Iran et d'autres qui sont venus au Maghreb pour préparer le terrain. Et donc c'est ce qui explique donc ce choix pour Idriss Ier de s'exiler jusqu'au Maroc, en fait jusqu'à ce qu'on appelait encore le pays de Tanger, la Tingitane. Et donc sur son chemin, il est accueilli par des groupes berbères qui sont déjà travaillés, on va dire, par cette prédication, et qui sont donc soit chiites, zaïdites plus spécifiquement, soit fidèles à une autre doctrine qui apparaît au 8e siècle, donc en Orient, qui est la doctrine mu'tazilite, qui est une doctrine théologique rationaliste et qui avait pas mal de partisans donc au Maghreb central et surtout donc dans la Tingitane. Et donc il est accueilli à Volubilis où il établit un premier pouvoir, donc il contrôle une partie du nord du Maroc jusqu'à la région de Tlemcène. Mais il n'est pas le seul à exercer un pouvoir politique parce qu'il y a d'autres acteurs qui dépendent d'autres lectures, on va dire, de l'islam, lectures kharijites notamment.
Jocine Dakli, dans cette narration de l'histoire du Maroc à travers les dynasties, c'est vrai que commencer avec les Idrissides, nous sommes au 8e siècle, et puis nous avons comme ça, dynastie après dynastie, une succession extrêmement logique, moi je l'entends ici.
on entend bien surtout la construction de cette lecture-là, parce que au temps des Idrissides, donc 8e, 9e siècle, même jusqu'au 10e siècle, il y a d'autres pouvoirs. Je vous le dis autrement, à partir de quand on peut parler du Maroc? Parce que je sens ici qu'on avance tous avec des pincettes en disant Maroc, mais bon, c'est le Maroc d'aujourd'hui. À partir de quand?
Je pense que il y a une forme de d'État national, je ne sais pas si le terme est pertinent, mais en tout cas, assurément, à l'époque mérinide, on peut parler du Maroc. Après les grands empires almoravides et almohades, même si encore à l'époque mérinide, il y a des tentative de reconstituer une sorte de grandeur impériale avec des visées d'expansion vers Tlemcen, vers Tunis, Kairouan. Mais moi, le point qui me frappe le plus, c'est que on met en évidence à l'heure actuelle, comme le montrent mes collègues, une histoire qui est sous le signe d'un pluralisme politique et religieux, et ce pluralisme a longtemps été tenu pour une forme de faiblesse finalement, de fragmentation, d'émiettement, d'incapacité à l'unité ou à une unité durable, alors qu'on peut renverser la lecture, renverser la visée, et y voir une forme de vitalité extrême, une forme de tonicité politique, religieuse, avec toute forme d'autonomie et des façons de rebattre les cartes politiques en permanence.
Allez-y, Mehdi Guirguet, parce que ici, moi, je l'entends bien, hein, berbère, arabe, mais pas seulement. J'entends aussi qu'il y a le chiisme, le sunnisme, et tout cela se croise ici, alors avec des moments où c'est l'un qui domine l'autre, mais nous sommes, j'ai l'impression, et vous me corrigez si je dis une bêtise, à un espace carrefour dans ce monde de l'islam.
Alors, tout à fait. Néanmoins, on peut identifier une rupture au XIe siècle, puisque cela correspond au moment qui est un double mouvement. Il faut l'analyser au nord avec la revivification de la Méditerranée et l'intensification des flux. Et d'autre part, et plus important sans doute encore dans l'histoire de l'humanité, la mise en communication, l'intensification des liens avec l'Afrique subsaharienne. Ce qu'on appelle communément le Bled Soudan, qui est donné en français le Soudan, qui correspond à l'Afrique sahélienne, à l'Afrique de l'Ouest. Puisque arrive en masse l'or, alors c'est vrai que la corrélation entre l'émergence du Maroc qui sort de son relatif anonymat historique, tel qu'il a été évoqué par Yasser Benhema, jusqu'à un certain point, puisque le Maroc a une balance des échanges positives avec le Bled Soudan, grâce à l'or, et rentre en contact, de ce fait, pour cette raison, avec les cités-états italiennes, hein, puisque les Almoravides sont les premières à établir des traités avec Pise, avec Gênes. Plus tard, leur successeur au Maroc, eh bien, avec Venise, Marseille et Barcelone, du nord produits aussi importants que le proto-acier qui permet de faire la guerre. Le fait qu'au Maroc, encore aujourd'hui, pour dire désigner un couteau de boucher, on dit genoué, hein, c'est-à-dire mot à mot genovese, ce qui vient de Gênes. Et c'est à partir de ce moment-là, je parlais de sortie d'anonymat historique, qu'apparaît le mot Maroc. Le mot Maroc signifie Marrakech, hein, Mourakouch, et évidemment ce sont à la fois les Castillans, si vous voulez, les Espagnols, de même que les Italiens, au sens large du terme, en particulier, on trouve ça chez Dante, hein, l'habitude de désigner un pays en fonction de sa capitale, c'est-à-dire un pays qui relève d'une altérité radicale. On prend désormais l'habitude de le désigner en vertu du centre du pouvoir, du centre de la dynastie. Plus tard, cela sera répété avec Alger, Algérie, Tunis, Tunisie, naturellement. Donc on peut considérer que cette mise en connexion, elle est centrale, elle permet aussi la création sur la mer d'autant d'infrastructures comme par exemple l'arsenal, hein, qui apparaît une première fois à Médéa, donc aujourd'hui en Tunisie, de même qu'en Al-Andalus, avant que ce modèle soit importé en mer Méditerranée occidentale, et puis pour la première fois avec les Almoravides en océan Atlantique, puisque au bout du compte ce sont eux qui décident bien de faire de Lisbonne une sorte de base, de capitale. D'ailleurs, aujourd'hui, au Portugal, on connaît un essor remarquable de l'archéologie islamique. Et par exemple, pour ceux qui les amoureux de Lisbonne, dont vous êtes peut-être, eh bien, on a retrouvé au Castelo São Jorge, c'est-à-dire en plein centre de Lisbonne, le substrat du château Almoravide, qui permettait de contrôler l'embouchure du Tage et d'avoir un débouché sur l'Atlantique. De même, à ce moment-là, on observe sur l'océan, sur la grande plaine atlantique marocaine, le fait qu'un certain nombre de ports sont dotés d'infrastructures, souvent forteresses, ports, et le cas échéant, arsenal, c'est-à-dire l'endroit où on assemble des bateaux pour la guerre. D'ailleurs, le mot vient de l'arabe maghrébin, dans le Sinaïen, qui est passé grâce au truchement du castillan, Taresena, dans toutes les langues européennes.
Merci de déjà faire naître le Maroc, tous les trois, parce que c'est pas rien. Et puis en plus, de repasser le Maroc dans ce monde méditerranéen, et pas seulement méditerranéen, un petit peu atlantique. Yassir Benima.
Alors, je voudrais justement, pour compléter ce qu'a dit Mehdi Ruedgat, parler justement des origines des Almoravides et l'origine même du terme.
Alors, oui, parce que moi, c'était ma question. Merci beaucoup d'y répondre, parce que j'ai une première dynastie, les Idrissides, qui s'arrête en 974. On passe au Almoravides. Mais voilà, moi, je voudrais savoir un peu ce qui s'est passé ici, à ce moment-là, ouais.
Alors, le terme Almoravide était la forme européenne dans les langues ibériques d'abord de Morabitoun, qui désigne en arabe les gens du Ribat. Et le Ribat est une institution qu'on va retrouver dès l'époque abbasside au moins en Orient, puis aussi après en Ifriqiya, pour désigner un espace dans lequel se concentrent des volontaires pour mener le jihad, pour mener la guerre contre un ennemi interne ou un ennemi maritime, ça pouvait être les Byzantins dans un premier temps. Et donc cette institution sert aussi comme lieu de retraite spirituelle. Et donc à partir du Xe siècle, on voit fleurir dans plusieurs régions du sud du Maroc des ribats qui sont essentiellement fondés par des malikites, c'est-à-dire des sunnites qui sont fidèles à une école juridique qui est celle du malikisme, une école née en Arabie, mais qui a connu surtout une diffusion majeure en Occident musulman, en Al-Andalus et en Ifriqiya. Et ces adeptes du Ribat vont jouer un rôle déterminant dans ce qu'on pourrait appeler la sunnisation du Maroc. C'est à eux qu'on doit finalement cette prééminence du malikisme, plus spécifiquement, donc dans la structure religieuse du Maroc médiéval. Et donc, à partir de Ribat, qui sont établis dans un premier temps au sud du Sahara, donc au sud de la Mauritanie actuelle, les Almoravides mènent une conquête assez rapide qui va leur permettre de contrôler d'abord tout l'espace saharien, et puis surtout, petit à petit, à unifier politiquement la partie située au nord du Sahara, donc la totalité de ce qu'est le Maroc aujourd'hui, mais aussi toute la moitié ouest, donc du Maghreb central jusqu'à Alger à peu près, et après à l'Andalous un peu plus tard, à la fin du XIe siècle.
Avec ici cette première dynastie, les Idrissides, et on l'a bien entendu, ce n'est pas une dynastie qui domine l'ensemble du territoire, il y a d'autres pouvoirs, c'est plutôt une construction historique qui en a fait la dynastie première. En revanche, avec maintenant les Almoravides, nous avons une dynastie qui unit un territoire, et un peu plus large d'ailleurs que le Maroc actuel, évocation de cette royauté.
Quand Youssouf fut conquis à l'Andalus et que celle-ci lui obéit, on le plaça au nombre des rois et il mérita le titre de sultan. Lui et les siens reçurent le nom d'Almoravide, et ce prince et son fils furent classés parmi les rois les plus puissants. Car l'Andalus est la vraie capitale, le centre du Maghreb extrême, la source de ses mérites. C'est dans ce pays que l'on trouve les soleils et les lunes des sciences. Al-Andalus est le centre et le pivot des talents. Les plus remarquables savants de cette contrée se rendirent auprès du prince des musulmans, si bien que sa cour ressemblait à celle des Abbassides à leur début. Ce prince était entouré d'une telle affluence des plus remarquables secrétaires et littérateurs que jamais aucun siècle ne vit pareille chose.
Olivier. Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait ici ce texte d'un chroniqueur maghrébin, alors installé en Égypte, mais au XIIIe siècle, on est après, qui parle des Almoravides avec l'évocation d'Al-Andalus. Ici, Yassir Benhima, c'est un monde autre dans mon imaginaire, et je pense dans beaucoup de gens, au moment d'évoquer Al-Andalus. Hein, nous coupons au niveau du détroit de Gibraltar deux univers. Or, c'est le même des deux côtés de la Méditerranée.
Tout à fait. Entre le Maroc et Al-Andalus, il y a une continuité qui est d'abord une continuité culturelle, religieuse, qui est aussi une continuité démographique. N'oublions pas que une majeure partie des armées qui ont conquis Al-Andalus étaient composées de berbères et que des migrations berbères ont alimenté d'une manière continue donc le peuplement d'Al-Andalus. Et au niveau politique, on est devant une situation qui va s'inverser justement avec les Almoravides. Car au Xe siècle, ce sont plutôt les pouvoirs andalous, le pouvoir omeyyade, du califat omeyyade, qui intervient au nord du Maroc et qui a contrôlé une partie du nord, les villes comme Fès, Tanger, Ceuta. Et après la chute du califat de Cordoue, donc la situation s'inverse. Il y a un morcellement politique en Al-Andalus avec les taïfas. Et l'intervention almoravide permet d'une certaine manière de réunifier politiquement Al-Andalus et de réarmer, si on veut, idéologiquement et militairement Al-Andalus face à la menace principale qui était ce qu'on appelle la reconquête chrétienne, donc qui s'intensifie à la fin du XIe siècle.
Oui, voilà, ce ne sont pas deux acteurs en fait qui se font face, alors les chrétiens d'un côté et puis le monde arabe de l'autre, tel que d'ailleurs ça a été chez nous longtemps présenté. Mehdi Gourgad, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les empires berbères, construction et déconstruction » et tout ça au pluriel d'un objet historiographique. Les berbères ont une place très importante dans notre histoire parce que, et là encore, hein, c'est nos représentations qu'il faut déconstruire quand on parle de monde arabe. Nous imaginons les arabes venus d'Arabie, non. Il y a les berbères aussi.
Oui, alors naturellement, les mondes médiévaux sont des mondes hétérogènes, composites, non unifiés, homogénéisés par un État. Et dans la longue durée, ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut garder à l'esprit, c'est le fait que ce sont les berbères, le peuple autochtone, qui occupe un espace compris depuis l'ouest du Nil jusqu'à l'océan Atlantique, îles Canaries compris, qui sont présents. Et dans la mesure où, qui plus est, ils sont indépendants des pouvoirs islamiques, hein, contrairement à l'Égypte et à l'Andalus, eh bien c'est eux qui imposent leur poigne, qui imposent leur langue. Alors certes, il y a un processus d'islamisation, mais une islamisation qui se fait dans un cadre indépendant. Et évidemment, c'est à partir du moment où il y a la force nécessaire. Alors c'est vrai que la corrélation peut sembler un peu automatique, ça peut sembler être du mécanique, mais l'arrivée de l'or permet un certain nombre de structures berbères, avec, comme l'a bien dit mon camarade Yassir Benhima, effectivement le ribat, avec la présence d'un homme charismatique, hein, un homme extraordinaire qui permet d'imposer sa loi aux tribus berbères et qui a cette aura d'avoir été formé le plus généralement en arabe, avec des compétences linguistiques, l'accès à une culture savante en arabe, que ce soit en Al-Andalus ou en Orient, qui permet de diriger, d'unir des tribus berbères qui étaient historiquement désunies. Hein. Mmh. Et effectivement, c'est tout l'histoire des Almoravides qui vont se retrouver ainsi depuis les fleuves Sénégal. D'ailleurs, au passage, Sénégal, ça veut dire Senhaja, ça veut dire Almoravide. Évidemment, vous voyez que la langue garde la trace quasi archéologique d'anciens états de fait, d'anciens rapports de force, et du fleuve Sénégal jusqu'à Saragosse, c'est-à-dire non loin de la frontière actuelle avec la France. Et là, pour la première fois, on va avoir un modèle, alors qui vient de l'Orient, qui avait été ensuite développé dans le cadre du califat de Cordoue, puis au XIe siècle, dans le cadre du morcellement politique qu'avait connu Al-Andalus, les royaumes de Taïfas. Eh bien, on a une très grande proximité, pour pas dire une promiscuité, entre savoir et pouvoir. Et les Almoravides, dans la mesure où ils ont une culture berbère, très éloignée, à l'origine au moins, de la culture savante de langue arabe, principalement, ils vont faire la promotion de lettré andalou. C'est tout le sens du texte lu précédemment, tout simplement parce qu'ils ont besoin de lettré.
pour augmenter le niveau et se placer au moins à la hauteur, si ce n'est pour dépasser, parce qu'il y a toujours un rapport antagoniste au passé, hein, de leurs prédécesseurs arabes. C'est dans ce cas, d'ailleurs, qu'on va apparaître la première fois une philosophie véritablement, enfin, en tout cas, entre guillemets, ça a été considéré comme ça depuis le 19e siècle, un essor rationaliste en Al-Andalus, puisque les grands philosophes, Ibn Bajjah, d'ailleurs connu chez le latin par Avenpass, rien que la latinisation, nous dit quelque chose de fondamental de cette naturalisation ultérieure dans les différentes langues occidentales et comment elle a été incorporée. Avenpass, le premier, Ibn Bajjah, est un philosophe, bon, c'est un polygraphe, astronome, mathématicien, au service d'un prince almoravide qui était le prince de Saragosse, hein, Ibn Tifliwit. Donc évidemment, c'est ce modèle-là que l'on retrouvera au temps des Almoravides jusqu'aux Almohades, c'est-à-dire 11e, 13e siècle.
Almoravides, Almohades, ce sont les dynasties berbères. Jocine Dacria, là encore, ce regard sur le temps long. Vous avez travaillé hein, sur les harems et les sultans, c'est le titre de votre ouvrage, et c'est remarquable, hein, on le sait bien, vous étiez venu dans le cours de l'histoire, c'est une émission à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Ce temps long qui nous fait évoquer aussi les influences venues de loin, les spécificités sur place, parce que c'est ça aussi, raconter l'histoire d'une nation, le mot est complexe à utiliser pour le Moyen-Âge, mais en tout cas d'un ou des peuples d'un pays. Il y a ici des influences extérieures et des spécificités liées au Maroc.
Oui, il n'y a pas de nation qui naisse en vase clos, il n'y a pas d'État non plus qui se développe en vase clos. Donc moi je suis sensible effectivement à d'une part à la transversalité des modèles, mais aussi aux circulations, et les circulations, elles se font par la captation des hommes, par les circulations serviles par exemple, mais aussi par toute une circulation d'hommes et de femmes libres, mercenaires par exemple, recrutés au service de ces états pour former des gardes prétoriennes, lettrés venus de loin, captés à l'occasion d'une ambassade qui viennent s'installer au Maroc. Et il y a toute une politique justement de ces dynastes marocains ou andalous pour retenir auprès d'eux les lettrés les plus fameux, et on observe que certains d'entre eux circulent des cours d'Al-Andalus vers les cours marocaines et inversement, mais que des lettrés orientaux aussi viennent se fixer au Maroc et portent un regard parfois plus ethnographique sur la région.
Oui, parce que Jocine Dacria, votre ouvrage s'intitule Harem et Sultan, sous-titré Genre et despotisme au Maroc et ailleurs. C'est ce et ailleurs qui fait ce va-et-vient. Parce que, sur une carte, quand nous colorions le monde islamique, nous faisons un tour. Alors, c'est souvent en vert, et puis ça fait l'ensemble. Alors que non, c'est pas comme ça que ça doit se penser. Il y a le « et ailleurs » parce que l'enrichissement, comme vous venez de l'expliquer, se fait par ces déplacements, mais le « et ailleurs » ne vaut aussi que par le regard porté sur l'autre. Le Maroc se construit d'une certaine manière en opposition à l'ailleurs pour bien montrer que ce qui se passe ici, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe ailleurs, ou alors en modèle.
Les deux sont vrais, je pense. Les deux sont vrais. par exemple, au XIVe siècle, un sultan mérinide fameux développe une politique d'ambassade auprès de l'Orient, lieu saint, Égypte mamelouk, envoie des ambassades prestigieuses, dont l'une se développe à l'occasion du pèlerinage d'une compagne de son père, donc avec en quelque sorte une ambassade féminine. Donc il y a cette politique, effectivement, de s'affirmer comme une entité particulière, une entité politique à part entière particulière dans le monde islamique. Mais quand je dis ailleurs, c'est aussi parce que, justement, on peut sortir d'une représentation de ces sociétés comme des sociétés finalement assez fixes, assez sédentaires. Et les Marocains notamment s'avèrent très mobiles s'avère très, enfin, se déplace beaucoup vers l'Orient, vers l'Europe. El Andalus, bien sûr, c'est la porte à côté, mais à suivre des personnages masculins ou féminins d'ailleurs, on se retrouve souvent transporté, ben oui, en Égypte ou bien évidemment dans d'autres régions du nord de l'Afrique, au sud du Sahara. Et donc c'est cette aptitude au mouvement, avec ce qu'elle suppose aussi de transfert de modèles culturels, de modèles politiques, mais aussi d'importation de populations, de manières de faire et d'être. C'est cette dimension d'embrassement du monde qu'il importe aussi de reconstituer quand on pense l'État-nation aujourd'hui.
Yassir Benhimar.
Justement, cet ailleurs était souvent l'Orient. Et l'Orient a servi parfois de contrepoint, on va dire, à l'expérience politique au Maroc. Et ça, on peut le trouver, par exemple, à l'époque almoravide. Les Almoravides sont nés, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un mouvement religieux, d'un mouvement de réforme religieuse qui a donc reconnu, d'un point de vue symbolique, l'autorité du calife de Bagdad. Et ça, c'est une première pour l'histoire politique du Maroc, qui a toujours échappé au contrôle des Abbassides. Mais cette reconnaissance symbolique s'est accompagné de l'invention pour la première fois dans l'espace islamique d'un nouveau titre, un titre de souveraineté qui est celui de Amir al-Muslimin, l'émir ou le prince ou le commandant des musulmans. C'est une manière de se distinguer du prince ou du commandant des croyants qui était le titre califal. Donc ça marque une certaine autonomie politique donc de ce pouvoir almoravide et en même temps donc une volonté d'adaptation à l'idéologie sunnite et donc à la légitimité donc que procure la reconnaissance d'un pouvoir califal. Et cette réalité finalement de va-et-vient avec l'Orient en ce qui concerne les modèles politiques et religieux, cette réalité on va la retrouver aussi à la fin de l'époque almoravide au moment de l'apparition d'une autre contestation religieuse et politique, celle des Almohades. Le fondateur du mouvement Almohad, Ibn Tumart, qui est un berbère de l'anti-Atlas et qui fait le pèlerinage et qui fait un séjour pour la quête du savoir en Orient, revient au Maroc avec une doctrine synthétise d'une certaine manière des apports différents, des apports sunnites, des apports chiites, des apports de courants théologiques différents, et se proclame Mahdi, donc là aussi une notion chiite qui était déjà présente au Maghreb, pour essayer donc de former une doctrine tout à fait nouvelle qui n'a pas d'équivalent dans tout l'espace islamique. Et là, on voit finalement que cette circulation des modèles amène aussi des formes d'innovation religieuse et politique, ce qui fait en réalité l'originalité de l'expérience politique au Maroc.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, Maroc médiéval, des dynasties et des sultans. Alors, les dynasties, les Idrissides, c'est bon. 8e siècle, 10e siècle, nous l'avons bien expliqué. Elle n'était pas la seule et elle a été mise en avant dans un récit qu'on pourrait qualifier de national. Les Almohavides, ah, ça y est, nous avons les Berbères qui arrivent ici. Changement religieux, donc, et avec cette dynastie nouvelle. Suit les Almohades, cette fois-ci nous sommes au 12e, 13e siècle. Là aussi, c'est une réforme religieuse, mais c'est encore berbère. Mehdi Gurguet, là, nous avons ces deux dynasties qui nous préoccupent, Almoravide et Almohade, berbères qui s'inscrivent dans ce monde qui est celui de l'islam, avec ses spécificités, mais il ne faudrait pas trop les mettre en avant non plus, parce que ce serait là aussi un piège de vouloir absolument créer une identité médiévale marocaine, ce qui serait dangereux.
Oui, toutefois, il y a un certain nombre de caractéristiques et une originalité réelle qu'il convient de mettre en évidence avec cette expérience almoravide et surtout almohade, puisque les Almohades ont voulu faire tranchant, ont voulu véritablement se distinguer en portant un islam autoréférencé à eux-mêmes. Hein, d'où d'ailleurs le terme même de Maghrib, Maghrib qui s'impose à ce moment-là, c'est-à-dire le pays du couchant, mais aussi le pays d'un peuple, les gens d'Occident. Hein, c'est un jeu de mots qui fait référence à un hadith, à une tradition prophétique, hein, qui insiste sur le rôle imparti de ce pays, de ce peuple surtout, hein, dans un rôle eschatologique, millénariste, c'est-à-dire de sauver entre guillemets les vrais croyants le jour de la parousie, le jour du jugement dernier, ce qui les a autorisés à se donner une langue spécifique, une langue berbère qui introduit un certain nombre de termes arabes comme langue sacrée, comme langue de référence, comme langue du religieux, imposée à la totalité des personnes soumises à leur pouvoir, à leur dynastie, à commencer par les lettrés originaires d'Al-Andalus qui vont être obligés de passer sous les fourches caudines de leur pouvoir en leur reconnaissant une prééminence. Et un autre point assez mal connu, c'est que l'orientation en direction de la Mecque des mosquées ne va plus se faire en direction de l'Orient, où il va être réorienté en direction du Sud, hein, pour des raisons qui sont liées effectivement au fait que la Mecque et Médine, ce sera plus tard le cas ultérieurement, eh bien, orienter les mosquées dans cette direction, l'Orient, c'est reconnaître la prééminence des pouvoirs politiques qui dominent, qui gouvernent l'Orient, ce qui était en soi inacceptable pour la dynastie almohade.
Voilà, orienté, et d'ailleurs orienté vers le sud, ça devient très complexe parce qu'on n'est plus vers l'Orient. Et dans cette histoire-là, il y a aussi, au Moyen-Âge même, enfin, par ceux qui observent ce monde, la volonté d'écrire cette histoire.
Quand la fille de notre Seigneur, le sultan Abu Yahya, fut tuée à Tarifa, en même temps que plusieurs autres épouses du sultan Abu al-Hassan, lors de l'attaque de ses tantes, cela laissa dans le cœur du souverain un chagrin profond, car il avait une grande admiration pour les bonnes qualités de cette princesse. La force de son caractère, la façon dont elle gouvernait sa maison et la distinction de ses manières. Et il appréciait hautement de jouir en sa compagnie du luxe et des douceurs de la vie. Ayant conçu le désir de la remplacer par une de ses sœurs, il envoya à la cour de Tunis une députation.
Olivier Martineau, dans Le cours de l'histoire, avec cette citation d'Ibn Khaldoun, que l'on retrouve, hein, Jocelyne Dacliya, dans votre ouvrage. Ici, l'évocation des femmes et votre regard porté sur une histoire genrée, avec la place des femmes, qui, là aussi, nous oblige à mettre de côté tant et tant de représentations que les siècles nous ont léguées. Dans un texte comme ça, on voit, hein, le regard porté sur l'importance des femmes, ne serait-ce que politique même, on pourrait le dire comme ça.
Oui, tout à fait. Il y a toujours un biais androcentrique lorsqu'on évoque justement ces phénomènes politiques, ces dynasties. L'écriture de l'histoire est largement masculine, mais il faut toujours avoir en tête qu'il y a des acteurs, des femmes, toujours présentes dans tous ces processus de négociation du pouvoir. Et le texte qui vient d'être mentionné fait référence à un des rares mariages interdynastiques qu'on connaît dans la période mérinide, donc le sultan du Maroc ayant demandé en mariage la fille du souverain Hafside comme une forme d'allégeance politique finalement. Et cette épouse a été tuée avec d'autres épouses du sultan mérinide lors d'une bataille célèbre en Espagne, la bataille de Tarifa en 1340, autrement appelée bataille de Rio Salado. Et ça nous rappelle donc toutes ces femmes qui accompagnaient les hommes et jouaient un rôle éventuellement actif aussi dans les processus de négociation. ou dans les processus d'hospitalité. Ça a eu un certain retentissement en Espagne à cette époque, la prise des femmes et de certains enfants également du monarque mérinide.
Oui, parce que dans les dynasties qui nous intéressent aujourd'hui, les Idrissides, ça y est, on les connaît, les Almoravides, les Almohades, nous les avons. Mais les Mérinides, c'est la période que vous venez d'évoquer, c'est là où écrit Inkatsum. On a ici une nouvelle dynastie qui nous laisse envisager un changement radical, encore une fois, de pouvoir. C'est très complexe, hein, ces histoires de dynastie, parce que dans notre imaginaire, c'est une rupture. Cette nouvelle dynastie, à la fin du XIIIe siècle, on peut le dire comme ça, s'impose de quelle manière ?
Alors, l'arrivée des Mérinides au pouvoir intervient d'une manière presque inattendue. Au début du XIIIe siècle, les Almohades traversent une période difficile, notamment après la défaite de Las Navas de Tolosa, donc en 1212. Cette défaite désorganise en quelque sorte l'appareil politique et militaire almohade, en laissant l'opportunité à des acteurs divers d'entrer en jeu, si on veut. Alors, les Mérinides sont avant tout, à ce moment-là, des nomades qui viennent des zones désertiques situées aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie. Ils pénètrent dans la partie nord du Maroc, profitant donc de l'affaiblissement du pouvoir almohade, et petit à petit établissent un contrôle qui est plutôt de nature nomade pendant presque 3 décennies. Et il faut attendre donc les années 1240 pour voir les Mérinides occuper les premières villes, notamment Fès, qui va devenir leur capitale. Et ce mouvement, qui était un mouvement de population nomade dans un premier temps, par opportunisme, va devenir un essai de substitution dynastique. Et donc les Mérinides vont petit à petit grignoter l'espace anciennement almohade pour s'emparer du pouvoir définitivement avec la prise de Marrakech en 1269. Et donc, ce qui différencie les Mérinides, justement, de leurs prédécesseurs, c'est l'absence d'un projet religieux. C'est presque par opportunisme politique que cette dynastie, donc, est arrivée au pouvoir, et elle va construire, donc, par ailleurs, d'autres éléments, on va dire, de légitimation de son autorité.
Avec l'idée, justement, d'écrire cette histoire, et le texte que nous lisait Olivier Martineau d'Imkaldoum, c'est sous cette dynastie-là, et vous, Mehdi Gourguet, vous êtes le biographe, entre autres, enfin, l'analyse d'Imkaldoum, itinéraire d'un penseur maghrébin. Il écrit l'histoire du Maroc à ce moment-là, on peut le dire, et il donne des éléments qui vont permettre de tisser un lien entre ces différentes dynasties.
Absolument. Alors c'est un regard, naturellement, a posteriori, mais un regard, alors peut-être que Jocelyne aura un autre avis que moi, qui a une forme d'originalité, en ce sens qu'il écrit après la grande peste noire, hein, qu'il a connu dans sa chair, hein, dans sa famille, puisqu'il avait 16-17 ans. Et il considère que dans la mesure où la peste noire, c'est-à-dire l'ampleur de la catastrophe, l'ampleur du désastre, a désormais tout changé. Et donc tous les pouvoirs du passé, eh bien, appartiennent à un passé, y compris la grande culture de nature et à vocation encyclopédique qui avait émergé chez les Abbassides et qu'on avait vu plus tard en Al-Andalus, aussi remarquable, aussi admirable soit-elle, est obsolète et caduque, et que lui-même est fondé à créer une science nouvelle, et évidemment avec l'idée... on dirait aujourd'hui foncièrement décliniste, peut-être empreinte d'une noirceur, hein, d'une noirceur certaine, c'est-à-dire que désormais, toute possibilité de recréer l'unité du Maghreb et de l'Andalous, ce qu'on appelle communément l'Occident musulman, qui avait une base plutôt située au Maroc, est désormais impossible, puisque la population a été décimée par la grande peste, la peste noire, hein, la catastrophe intégrale que cela représente, que cela constitue. Alors peut-être s'agit-il d'une forme d'idéologie, de tendance à manipuler, instrumentaliser l'histoire dans un sens qui, sans doute, qui l'arrangeait, pour créer une science nouvelle et une nouvelle dimension discursive. Et par rapport à ça, effectivement, le point central qu'il faut garder à l'esprit, essentiellement pour Ibn Khaldoun, c'est que désormais tout pouvoir ne pourra pas faire aussi bien que le passé. Et qu'on est sur une pente d'un monde qui voit cette grande ère s'achever.
Jocelyne Dacquilla, en réaction à ce qui vient d'être dit, parce que ici, l'idée de se référer au passé, ça rentre complètement dans l'esprit des gens de ces temps passés aussi, à trouver un passé idéal à essayer de reproduire.
Bien sûr, mais il ne faut pas nécessairement prendre à la lettre cette référence au passé. Et ce à quoi Mehdi faisait référence n'est pas vraiment un désaccord. C'est-à-dire qu'on peut lire Ibn Khaldoun pour son apport personnel, cette réflexion où il affirme une rupture, mais on peut le lire aussi comme un homme de son temps, partageant un certain nombre de tropes avec ses contemporains, à commencer par l'exaltation du passé et un sentiment de déperdition.
Ouais, parce que c'est vraiment cela aussi, hein. Penser au passé, c'est de se dire, regardez le présent comme c'est terrible. Yassine Benima. Yassir, on avait ici ces quatre dynasties. Nous les disons les unes après les autres. Les Idrissides, les Almoravides, les Almohades et maintenant les Mérinides. À quel moment tout cela est relié pour constituer une lecture en continu, sachant que depuis le début de l'émission, nous avons bien compris que ce sont des processus complexes. Mais faut relier tout ça. Quand ça s'est écrit ?
C'est justement à l'époque mérinide. Ce sont les historiens mérinides au début du XIVe siècle qui établissent cette continuité entre le moment idrisside et le temps présent, c'est-à-dire cette dynastie mérinide qui était à ce moment-là au fait de son pouvoir. On trouve ça, par exemple, dans une chronique très célèbre au Maroc qui est la chronique d'Ibn Abizal à l'Aoud al-Kertas, qui est une histoire en fait du Maroc et en particulier de la capitale, de la ville de Fès, fondée donc, par les Idrissides. Et donc, les Mérinides, comme justement, ils n'avaient pas de projet religieux, ont essayé de mobiliser plusieurs vecteurs de légitimation, et l'historiographie en fait partie. Et le fait de récupérer cette histoire idrisside participe de cet effort de légitimation. Alors, une histoire idrisside relue, bien évidemment, par le regard spécifique des lettrés du XIVe siècle. Une dynastie qui devient beaucoup moins chiite qu'elle l'était réellement. Donc elle est un petit peu insérée finalement dans, je dirais, la normalité sunnite qui domine désormais au Maroc, donc après la fin des Almohades. Et cette revendication, on va dire, ou réappropriation de l'histoire idrisside est corollaire aussi avec une autre particularité de l'époque mérinide qui est l'apparition de ce qu'on appelle le charifisme. Alors, charifisme, c'est en référence au shurafa, au shurfa, comme on dit au Maroc, le terme est passé aussi dans la littérature coloniale sous cette appellation-là, et ça désigne en fait les descendants, en tout cas revendiqués, de la lignée prophétique, et en particulier de la lignée Alid. Et donc, les shurafa vont occuper à l'époque mérinide un rôle de plus en plus important. Alors, ils apparaissent d'abord comme une forme de strates, on va dire, parmi l'élite, qui bénéficie d'un capital symbolique qui devient en réalité l'élément justifiant une rente fiscale et foncière, et petit à petit se nourrit aussi un projet, on va dire, des revendications politiques qu'on va retrouver à la fin de l'époque mérinide. Et d'ailleurs, la chute des mérinides intervient en 1465 à la suite d'une révolte populaire à Fès qui porte au pouvoir pour la première fois donc un descendant justement de ces lignées de Shurafa. Alors c'est une parenthèse qui va être courte, c'est-à-dire que ce syndic des Shurafa porté au pouvoir au XVe siècle va gouverner 6 ans et sera obligé de s'exiler après l'apparition d'une énième dynastie qu'on oublie, celle des Wattassides, de vizirs appartenant à la même tribu que les Mérinides. Mais ce moment romans préfigurent en quelque sorte les dynasties chérifiennes, donc qu'on va voir surgir donc au Maroc à partir du XVIe siècle et puis après au XVIIe siècle avec les Alaouites, donc pour justement retisser le fil de cette histoire dynastique.
Voilà, les Alaouites qui sont toujours là en place avec l'idée de descendre du prophète, et là on comprend le moment où ça se joue. Jocine Dacliya, dans cette histoire-là, il y a le mot sultan, avec ici qui s'agrège tant d'idées autour du sultan, parce qu'il ne faut pas confondre le sultan du Maroc et le sultan tel qu'on va le retrouver dans l'Empire ottoman, et tout ça se confond dans ces lectures, alors que ici nous avons quelque chose qui peut se tracer de beaucoup plus clair politiquement. Mais l'idée du sultan despote oriental, le mot même s'agrège au Maroc, par erreur.
Alors, sultan, on peut le prendre comme un terme générique qui réfère simplement au pouvoir. D'ailleurs, étymologiquement, enfin, à l'origine, sultan, c'était le pouvoir. C'était pas spécifiquement porté par un détenteur de pouvoir. Donc, on peut le prendre comme un terme générique. Quand est-ce que ça s'associe effectivement à la notion de despotisme? Le concept de despotisme, il est né plus vers l'Orient ottoman, et il est né principalement à partir du XVIe siècle, et il y en a une déclinaison marocaine, effectivement, assez spécifique, voire une déclinaison maghrébine, même si le terme maghrébin ne faisait pas sens pour ces périodes. On parlait plutôt de barbarie en Europe. Il y a une déclinaison du despotique sous un jour peut-être plus tyrannique, désordonné. Il y a cette acception proprement occidentale du despotisme qui était très présente dans la philosophie politique européenne de l'époque moderne et que nous avons perdu de vue depuis.
Oui, parce que c'est ça, hein. Nous avons ce regard aujourd'hui sur le Maroc médiéval, mais par une historienne, des historiens, qui n'est pas le même que celui qui est véhiculé par toutes ces traditions et ces fantasmes. Mehdi Gouirguette, est-ce que cette histoire-là est enseignée au Maroc? Est-ce qu'on apprend au Maroc aujourd'hui, par les dynasties, une après les autres, cette histoire ancienne du Maroc?
Comme le modèle, c'est celui de la France et de sa succession supposément ininterrompue de héros, on va dire, sur le modèle de Vercingétorix jusqu'à De Gaulle,
On connaît. Ouais.
Mais évidemment, c'est un petit peu sur le même modèle, c'est-à-dire dire que le Maroc a été un empire, c'est-à-dire une puissance expansionniste, et à partir de ces deux capitales principales, Marrakech et Fès, auxquelles il faut ajouter à l'époque moderne, Meknès, eh bien, on a une histoire dont on peut tirer fierté. Et dire aussi que Voltaire a connu l'histoire du Maroc, et l'a utilisé contre Rousseau dans son essai sur les mœurs. En effet, il fait grand cas de l'histoire du Maroc qu'il connaissait par le biais des historiens espagnols de langue castillane, et évidemment, pour lutter contre Rousseau avec son célèbre commençant donc par ignorer tous les faits, au contraire, il infère qu'il faut en revenir aux événements et l'analyse des faits, et il prend très étonnamment pour nous l'exemple de l'histoire du Maroc qui a été connu, évidemment, dès les Lumières, avec une nette accélération de l'intérêt porté au cours de la période coloniale.
Et merci vivement à tous les trois. Quel défi quand même de traverser. Alors moi, j'étais sur quatre dynasties, et puis vous, Yassir Benima, vous en avez rajouté une, hein, les Wadassides, et puis même les Alaouites jusqu'au bout. Mais formidable narration, en fait, de cette histoire-là, en y mettant de la complexité. On va retrouver tous les ouvrages cités sur le site internet du cours de l'histoire, que ce soit les empires berbères, harems et musulmans, et que ce soit la fabrique d'un État territorial, hein, Yassir Benima, parce que cette fabrique-là, telle que vous l'évoquez, c'est ce qui nous fait comprendre ce qui se passe au Maroc aujourd'hui. Merci vivement à tous les trois. Prochains épisodes dans le cours de l'histoire. Nous allons réfléchir à ce qui signifie être sultan au temps des protectorats au Maroc. Ben, qui gouverne ?
Au début du XXe siècle, le Maroc apparaissait comme un pays berbère, peu profondément islamisé, soumis à un gouvernement appelé Makhzen, constitué par le sultan, ses vizirs et leurs bureaux. Le sultan, qui appartenait à la dynastie chérifienne des Alaouides, était en théorie un souverain tout-puissant, calife, imam, commandeur des croyants, doué d'un potentiel énorme de baraka, c'est-à-dire de puissance magique.
Le corps de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel et Thomas Beau, à la technique Nicolas Le Roulet. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy et Mayouen Guizou. Émission à retrouver, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.